إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم منها. أخواتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح الأجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن أبي المحسن البدر حفظهم الله عز وجل. فقال الناظم رحمه الله تعالى: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها، أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى ببنة خير صحبه وشرع الأذان فاغتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر صوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر. طيب، إذن ذكرنا في درسنا الماضي غزوة بدر الكبرى، كما قال الناظم: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في السابع عشر الشهر. نعم. Donc on avait évoqué la semaine dernière la grande bataille de Badr. La grande bataille de Badr qui s'est déroulée, donc, comme on a dit, durant le mois de Ramadan. Voyez, donc on avait dit Ghazwatu Badr durant le mois de Ramadan. Naynam. On avait dit donc c'était le 17 du mois de Ramadan, durant la deuxième année de l'Hégire. Voyez, comme il dit l'auteur ici, fi saumi ay fi shahr saum fi sabi'i 'ashri shahri. Na'am. On avait cité aussi le hadith. Le hadith ici que le cheikh Abd al-Razzaq, fidahullah ta'ala, a mentionné, dans lequel Il est dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يعني في ليلة القتال عين مصارع كبراء هؤلاء. Dans lequel on avait appris notamment que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait mentionné de façon détaillée مصارع كبراء هؤلاء. يعني les endroits où certains de leurs notables parmi l'armée des polythéistes يعني allaient mourir. Donc il a cité comme quoi un tel allait mourir à tel et tel endroit. Et cela, يعني, s'est réellement réalisé lors de la bataille. Et cela donc fait partie des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وماتت بنات النبي البر وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري. Donc on avait dit aussi, on avait mentionné le décès, la mort de la fille du prophète Ruqayya, radiallahu anha, avant que les musulmans reviennent de Badr. Et on avait dit aussi que Ruqayya était l'épouse de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Puis il dit, « وعرس الطهري وتم أيضا بعد معركة بدر عرس الطهري أي المرأة العفيفة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي القدري أي على رفيع المكانة وعلي المنزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc après le décès de Ruqayya, l'auteur ici va parler du mariage de Fatima. Le mariage de Fatima, la fille du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit ici عرس الطهري. Donc le mariage de Tor, c'est-à-dire le mariage de la femme pure, de la femme chaste, qui était donc Fatima, la fille du prophète عليه الصلاة والسلام. Elle s'est mariée avec qui? Elle s'est mariée avec, comme il a dit ici l'auteur, Ala Ali al-Qadri. Ali. D'accord? Avec Ali ibn Abi Talib. Radiallahu anhu. Ici, il a fait un rapport aussi par rapport à son prénom en disant Ali al-Qadri, c'est-à-dire celui qui est élevé. Hein, élevé en degré, élevé en position auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Ali al-Qadri, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, qui est également donc le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam. ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر ما جاء في الصحيحين أن علي قال كانت لي شارف أي ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين واستعين به في وليمة عرسي إلى آخر الخبر. Donc, parmi les choses qui prouvent et qui montrent que le mariage de Fatima et de Ali s'est déroulé après la bataille de Badr, ce qui a été rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Comme quoi Ali, radiallahu anhu, a dit, j'ai possédé une chamelle qui faisait partie de ma part dans le butin récolté lors de la bataille de Badr. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné une chamelle également du cinquième de ce butin. Donc ça fait qu'il a reçu du butin de Badr, il a reçu deux chamelles. Puis il dit, et lorsque j'ai voulu consommer le mariage avec Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je me suis mis d'accord avec un homme qui faisait partie des joailliers de la tribu de Qaynuqa, de voyager avec moi afin que nous rapportions, yani, bi-ithkhir. Donc, l'ithkhir, c'est une plante aromatisée. Donc, il a voulu partir chercher cette plante aromatisée avec cet homme-là, donc, qui lui a servi, pardon, de guide, afin de la vendre, de vendre cette plante aromatisée-là auprès des bijoutiers, etc., afin de se servir de cet argent-là pour pouvoir organiser le repas de noces, yani du mariage avec Fatima, radiallahu anha, jusqu'à la fin de l'information. Donc, ce qui prouve, par rapport à ce khabar, ce qui prouve qu'il s'est marié après la bataille de Badr, c'est quand il a dit « Je possédais une chamelle qui faisait partie du butin de la bataille de Badr. » Donc, ce qui prouve bien que Ali s'est marié après cette bataille-là. وأسلم العباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر حيث كان من جملة الأسرى الذين أسروا في هذه المعركة واختلف في وقت إسلامه فقيل إنه أسلم بعد الأسر وبه جزم الناظم رحمه الله تعالى وقيل إنه أسلم قبل ذلك وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة مكرها وكان يخفي إسلامه ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أنه قال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. Puis dit l'auteur, رحمه الله تعالى, وأسلم العباس. Et العباس, qui était l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, أسلم, a embrassé l'islam. بعد الأسر, après la captivité. C'est-à-dire que Al-Abbas, donc lors de la bataille de Badr, yani, donc il était encore polythéiste à ce moment-là, il a été fait prisonnier avec les prisonniers. Voyez, donc ça veut dire que, selon l'auteur ici, Al-Abbas, radiallahu anhu, s'est converti à l'islam, a embrassé l'islam après la bataille de Badr, après qu'il ait été fait prisonnier. D'accord ? Il faut savoir, malgré ça, que les savants ont divergé sur le moment de son islam. Sur le moment de son islam. Certains disent, comme ici l'auteur, qu'il a embrassé l'islam après sa captivité. D'autres disent qu'il a embrassé l'islam avant cela. Et qu'en vérité, il était venu avec l'armée des polythéistes durant cette bataille-là, en étant contraint, et qu'en vérité il cachait au fond de lui son islam. Et cela a été affirmé par un hadith ou un khabar apporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et d'autres que lui, dans lequel il aurait dit j'étais musulman avant cela et ils m'ont seulement yani, contraint à partir avec eux durant cette bataille là de Badr. Mais il faut savoir que ce khabar a été yani, rendu faible par certains savants du hadith. طيب. ثم قال الناظم رحمه الله وقينقاع غزوهم في الإثر وبعض ضحى يوم عيد النحر وقينقاع غزوهم في الإثر بنو قينقاع وهم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد وادعهم عليه الصلاة والسلام وتمت بينه وبينهم معاهدة وكتب بذلك كتابا وكان بنو قينقاع أول قبائل اليهود نقضا للعهد، فغزاهم عليه الصلاة والسلام في إثر غزوة بدر في منتصف شهر شوال، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة من منتصف شهر شوال إلى غرة هلال ذي القعدة، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فكتفوا، وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلتهم لكن شفع فيهم عبد الله ابن أبي الذي كان أظهر إسلامه وألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا ويخرجوا من المدينة. في الجلوتير رحمه الله تعالى قينقاع غزوهم في الإثر. Là on parle de l'expédition de Qaynuqa, celle que l'on appelle l'expédition Ghazwatu Qaynuqa. Donc Qaynuqa, c'est-à-dire la tribu de Qaynuqa, qui est une des tribus des Juifs. Il y en avait trois à Médine. Donc l'une de ces trois tribus de Juifs à Médine était donc celle de Qaynuqa. Lorsque le prophète, donc, alayhi salatu wa salam, a fait l'émigration à Médine, il y avait donc ces trois tribus. Il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wa salam, a passé un traité, un accord, avec justement la tribu de Qaynuqa. D'accord ? Donc il y a eu cet accord de paix, d'entente, entre le prophète, les musulmans, et la tribu de Qaynuqa. Taïr. Donc il y a eu un écrit, etc. etc. Mais il faut savoir que donc, la tribu de Qaynuqa est la première tribu juive qui a trahi ce traité et qui a défait donc, les accords qui avaient été passés entre le prophète alayhi salatu wassalam, et cette tribu. Donc il n'avait d'autre choix le prophète alayhi salatu wassalam, que de monter une expédition yani, contre eux après la bataille de Badr. D'accord ? Après la bataille de Badr. Et cela s'est déroulé durant la moitié du mois de Shawwal. Durant la moitié du mois de Shawwal. Et on a vu que Badr, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, les a cernés pendant 15 nuits. Pendant 15 nuits, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entouré donc avec son armée la tribu de Qaynuqa pendant 15 nuits. À partir de la moitié du mois de Shawwal, comme on a dit, jusqu'à donc le début ou l'apparition du croissant lunaire du mois de Dhul-Qa'dah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a jeté dans le cœur de cette tribu l'effroi et la terreur. Et ils ont donc accepté le jugement du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il a ordonné qu'on ligote les mains de ces combattants, de ceux qui ont combattu, les musulmans. Et il voulait donc les exécuter. Il voulait exécuter tous ceux qui ont combattu contre les musulmans. Mais un certain Abdullah ibn Ubay a intercédé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est Abdullah ibn Ubay qui montrait en apparence l'islam, a insisté fortement auprès du prophète sallallahu alayhi, et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que on ne les exécute pas, mais qu'on les bannisse et qu'on les exclue de la ville de Al-Medina. نعم. وبعد ضحى يوم عيد النحر. أي بعد ذلك ضحى في شهر ذي الحجة في يوم عيد الأضحى المبارك من السنة الثانية للهجرة. قال ابن الأثير وفيها ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وخرج بالناس إلى المصلى وذبح بيده شاتين أو شات، وقيل الشات، وكان ذلك بدء هذه الشعيرة. قيل دي لوتر رحمه الله تعالى et après il a immolé le jour de عيد النحر، le jour de عيد du sacrifice. C'est-à-dire qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé durant le mois de Dhul-Hijjah, le jour de l'Aïd, donc le jour de l'Aïd al-Adha, béni, de la deuxième année de l'Hijra. Il dit Ibn al-Athir, rahimahullah, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a immolé à Médine, puis il est sorti. Il a immolé à Médine et il est sorti donc avec les gens vers Al-Musalla. D'accord ? Vers Al-Musalla. Et là-bas, il a donc sacrifié par sa main deux bêtes. Certains disent une bête. Voyez. Et c'est comme cela qu'a débuté le début de ce rite. De ce rite qui est le rite de l'immolation, du sacrifice de la bête le jour de Al-Eid. طيب الحمد لله. قال الناظم رحمه الله وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في ثالثة المشتهرة. وغزوة السويق وهي أن أبا سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر نذروا أن لا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، فتجهز مع 200 فارس وجاءوا إلى المدينة من جهة النجد حتى أتوا المدينة من الناحية الشرقية للمدينة، فأتوا منطقة فيها اليهود يقال لها العريض، واد معروف بهذا الاسم إلى الآن في شرق المدينة. فنزل عند السلام ابن مشكم من اليهود فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس. فلما أصبح حرق في أسوار من نخل في المدينة وقطعها إفسادا وتخريبا من باب الانتقام، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا فنذر بهم الناس وتعالموا بخبرهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه واستخلف على المدينة أبا لبابة، فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان، وكان أبو سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم التي فيها السويق وهو القمح المطحون المحمص، يتخففوا وليتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين خرجوا في طلبهم. فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة ألقاها المشركون يتخففون منها وعمتها سويق، فسميت غزوة السويق. طيب في جلوتير رحمه الله تعالى et l'expédition de السويق. Voilà pourquoi on l'appelle comme ça. Donc celle-là s'est produite lorsque Abu Sufyan, lorsqu'il est revenu après la bataille de Badr, donc après leur défaite, lors de la bataille de Badr, lorsqu'il est rentré avec les Koufars, les mécréants, il s'est juré de ne pas laver sa tête avec de l'eau tant qu'il ne s'est pas vengé, hein, par rapport à cette défaite. Tant qu'il ne s'est pas vengé du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne se lavera pas la tête avec de l'eau. Taïb. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donc préparé avec 200 cavaliers. Mi'atay. Avec 200 cavaliers, et ils sont partis donc à Médine. À Médine, du côté de Najd. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés donc à Médine, du côté est de Médine. Ils sont arrivés dans un quartier dans lequel il y avait donc les juifs, donc un quartier que l'on appelle Al-Uraïd. Donc c'est une vallée connue aujourd'hui par ce nom-là, Al-Uraïd, jusqu'à aujourd'hui, qui se trouve donc à l'est de Médine. Et il est descendu donc chez un certain Salam ibn Mishkam, qui faisait partie des juifs, qui lui a donné à boire, à manger, taïeb. Et lorsque il s'est retrouvé yani, au matin, il a commencé à incendier les palmiers, à les couper. Donc il a créé des incendies, il a commencé à couper des palmiers, etc., afin de semer donc là, le désordre, le chaos dans Médine pour se venger du prophète et des musulmans. Et il a même tué un homme parmi les Ansar, ainsi que celui qui était un de ses alliés. Il a tué donc deux individus, deux hommes, ici de Médine. Et puis, il s'est enfui. Et puis, il s'est enfui. Taïeb. Et donc, les gens de Médine, puis les gens donc ont appris la nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait le messager? Sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti à sa poursuite. Et il a laissé à Médine, en tant que dirigeant à sa place, Abu Lubaba. Taïeb. Il est sorti donc à sa poursuite et il est arrivé, le prophète, alayhi salam, à un endroit appelé Qarqaratul Qudr. Qarqara al-Qudr. Puis il est rentré sans avoir pu donc mettre la main sur Abu Soufiane. Il faut savoir que Abu Soufiane et ses compagnons, sur le chemin, lorsqu'ils se sont enfuis, ils ont laissé derrière eux leurs provisions. Ils n'ont pas pris leurs provisions pour justement s'alléger et ne pas être ralenti à cause de ça. Et donc leurs provisions étaient composées principalement de sawir. C'est quoi sawir? Eh bien, c'est du blé concassé. Et du blé concassé et grillé. D'accord? Donc, ils se nourrissaient principalement de ça. Et pour pas s'alourdir dans leur fuite, ils ont tout laissé. Vous voyez? Afin de pouvoir échapper au prophète et à ses compagnons qui étaient donc sortis à leur poursuite. Et donc, lorsque les messagers, les compagnons, pardon, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont arrivés, ils ont trouvé donc ces nombreuses provisions qu'ils avaient été jetées par les polythéistes afin d'être allégés. Et la majorité, comme on a dit, le principal de leurs provisions était composé de cette denrée qui était donc sawirq. C'est pour ça qu'on appelle cette raison, on l'appelle razwat sawirq, l'expédition de sawirq. D'ailleurs. Qala an-nadhimu thumma qarqara. أي غزوة قرقرة الكدر ويظهر أن عطف الناظم غزوة قرقرة على غزوة السويق للتغير بينهما ويدل عليه صنيع الواقدي وابن سعد حيث عقد فصلا لغزوة السويق وفصلا آخر لغزوة قرقرة الكدر وأرخ لغزوة السويق بأنها كانت في ذي الحجة وغزوة قرقرة في المحرم وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما غزوة واحدة قال ابن كثير غزوة السويق في ذي الحجة منها وهي غزوة قرقرة الكدر والغزو أي الغزوات في الثالثة المشتهر أو في الثالثة المشتهرة أي السنة الثالثة من الهجرة مشتهرة وكثيرة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك عند الناظم رحمه الله تعالى. نعم. Puis dit l'auteur, rahimahullah, ensuite Qarqara, c'est-à-dire la bataille de, ou l'expédition de Qarqaratul Qudr. De Qarqaratul Al-Qudr. Donc on a parlé de Ghazwatul Sawiq, là on passe à Ghazwatul Qarqara. Taïb. Donc ici, le fait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné Ghazwatul Sawiq, puis il a dit ensuite Qarqara, ça nous montre que pour lui, c'est deux expéditions différentes qu'il a distinguées donc entre les deux, nous indiquant que la bataille de Sawiq n'est pas celle de Qarqara, que la ghazwa de Sawiq n'est pas celle de Qarqara. D'accord ? Naam, comme l'ont mentionné également Al-Waqidi et Ibn Sa'd. Lorsqu'ils ont émis un chapitre spécifique à l'expédition de Sawiq et un autre chapitre pour l'expédition de Qarqaratul Qudr. Et ils ont même établi la chronologie de ces deux batailles en disant que la ghazwa de Sawiq s'est déroulée durant le mois de Dhul-Hijja et celle de Qarqara pendant le mois de Muharram. On voit bien que ce sont deux razois, deux expéditions différentes. Mais certains savants sont d'avis que ce sont une et seule même expédition. Comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit l'expédition de Sawiq s'est déroulée durant Dhul-Hijja. D'accord ? S'est déroulée durant Dhul-Hijja. Et l'expédition de Qarqara, Al-Qudr, et c'est, donc l'expédition de Sawiq, c'est l'expédition de Qarqara Al-Qudr. Donc les deux sont la seule et même expédition, c'est l'avis de Ibn Kathir. On a vu donc, on a une divergence là-dessus.
C'est la même ou pas ?
Non, ils ont divergé. Les savants ont divergé sur ça. D'accord ? Les historiens ont divergé sur ce sujet. Puis, dit l'auteur, rahimahullah, Al-Ghazou et Al-Ghazawat. Donc Al-Ghazou, c'est-à-dire les Ghazawat, les expéditions. Les expéditions. Fi thalithati Al-Mushtahira, d'accord ? Durant la troisième, c'est-à-dire la troisième année de l'Hégire. On le verra, Inch'Allah. Donc là, on termine la deuxième année, on va rentrer dans la troisième année. On a vu que, et on verra, pardon, que dans la troisième année, il y a également beaucoup d'expéditions et qui sont également célèbres, comme l'auteur en fera allusion, Inch'Allah Ta'ala. Donc ici, on a mentionné combien d'événements importants. Aujourd'hui, on a mentionné 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a mentionné 6 événements supplémentaire important. Al-Haditha al-Tasi'a, Zawaju Ali bi Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné le neuvième événement de la deuxième année de l'Hégire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le neuvième, c'est le mariage donc de Ali avec Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. العاشرة إسلام العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. Le dixième l'islam de l'Abbas, le fils d'Abd al-Muttalib, c'est-à-dire l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة غزوة بني قينقاع. Puis on a évoqué le onzième événement, l'expédition de Bani Qaynuqa. طيب غزوة بني قينقاع. الثانية عشرة مشروعية الأضاحي في عيد النحر. Le douzième événement, la législation du sacrifice le jour de de l'Eid du sacrifice. Eid al-Nahr. طيب. الثالثة عشرة غزوة السويق. Le treizième événement, c'était quoi? L'expédition de السويق. والرابعة عشرة غزوة قرقرة. Et enfin, le quatorzième événement que l'on a mentionné, l'expédition de Qarqara. Donc ça en fait en tout 14. On a mentionné en tout 14 événements s'étant déroulés donc durant la deuxième année de l'égir de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc à Médine. Khlas, alhamdulillah, naktafi bihada inshallah ta'ala, wa l'ilmu indallah, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.